je bascule dans ma deuxième partie sur ce projet qu'on a ouvert avant la crise du Covid, qu'on a appelé Réalangue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on essaye de s'intéresser à la réalité de l'enseignement, de l'apprentissage de la langue en milieu scolaire. Notre objectif, c'est une démarche de recherche qu'on appelle écologique, c'est-à-dire on veut déjà comprendre, avant d'expérimenter des choses. Le modèle est assez simple. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien, parce qu'en fait, toute la méthodologie de notre recherche, on l'a mise en lien sur notre site. On a un site d'articulation Scolagramme, entre pratique et théorie. J'ai mis également les noms de mes collègues qui coordonnent ce projet. Et en gros, le projet est assez simple, hein. En septembre 2019, on a fait un test d'entrée en langue de la dictée, de la reconnaissance catégorielle, de l'explicitation métalinguistique. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer des choses issues de ces tests-là. Et on a fait des tests de sortie. Et la chance que l'on a eue, parce que dans notre projet, nous voulions faire des tests de sortie en janvier, c'est-à-dire après 14 semaines d'école, parce que nous voulions, après en février, mars, avril, aller voir des classes qui nous semblaient performantes. Et vous savez qu'à partir de mars 2020, la crise a fait que les choses ont complètement changé notre organisation, mais au moins, nous avons récupéré des données de ce test d'entrée, de ce test de sortie. Et vous imaginez bien, quand j'ai un test d'entrée et un test de sortie, j'ai des progrès. Et quand j'ai des progrès, on se dit, je vais donc savoir quelle est la meilleure classe de France. Donc, on part la fleur au fusil. On mesure des performances. On observe des pratiques, c'était ce qu'on voulait faire, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Et évidemment, on a l'efficacité pédagogique. On est dans un modèle assez classique de recherche qu'on appelle translationnel. Nous appliquons ce modèle-là et on va vous expliquer pourquoi c'est bien plus compliqué qu'on peut le penser. Et notre corpus, il est le suivant quand même. On a 502 élèves de CE2 issus de 28 classes qui ont passé le test d'entrée et le test de sortie. On a 536 élèves de CM1. 32 classes, et on a 585 élèves de CM2, 32 classes, et je vais m'appuyer là-dessus pour vous donner des éléments de réflexion. On voit bien que sur l'adjectif, il y a quand même quelque chose qui nous pose problème, c'est-à-dire qu'on leur demande de souligner des mots, ils nous soulignent des groupes de mots, et que plus la scolarité avance, plus ce truc-là avance. Donc, ce n'est pas clair pour eux, parce qu'un groupe de mots, si après, derrière, on veut faire des accords, bon courage. Hein. Donc, ce n'est pas clair pour eux. Que disent les programmes ? Ok. Donc, vous voyez le réflexe d'universitaire formateur que j'ai, que vous devriez toujours avoir, c'est que disent les programmes. Et quand je dis les programmes, à chaque fois, je suis obligé de montrer la une, hein, parce que ça peut être autre chose, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Donc là, à ce moment-là, si c'est que disent les programmes et qu'on est au milieu de tout ça, donc moi, je clarifie. Hein. Bon, ils disent, à la fin du cycle 2, il faut identifier l'adjectif. Très bien. Nous, notre recherche est en train de montrer que ce n'est pas clair du tout, même en fin de CM2. Deuxièmement, on nous demande d'accorder au sein du groupe nominal le déterminant non adjectif. Donc, on voit bien que l'adjectif, il est positionné dans le groupe nominal, donc ce qu'on appelle en tant qu'épithète. OK. En fin de sixième, pardon, on commence à parler de l'attribut. On passe de l'épithète à l'attribut et on nous dit toujours qu'il faut l'accorder parce qu'en fait, la clé de l'adjectif à première vue, c'est l'accord. Et c'est peut-être là que ça va nous poser problème parce que c'est tellement présent cet accord qu'on va peut-être trop vite sur le travail qu'on pourrait mener sur l'adjectif. Donc, l'adjectif, il est avant tout intégré au groupe nominal, donc fonction épithète, et la dimension morphologique, c'est la priorité. Et ça, que ce soit au niveau des programmes, que ce soit au niveau des repères annuels, des repères des attendus de fin de cycle, etc. OK. On a une terminologie grammaticale. Donc, nous allons regarder ce que dit la terminologie grammaticale. Cette terminologie, voilà son sens, c'est qu'à la page 3, on nous dit que c'est pour donner aux enseignants les moyens de s'approprier un savoir grammatical solide. Ça a été soulevé dans l'atelier tout à l'heure. À première vue, on voit bien qu'il y a une fragilité autour de ça. C'est fondé sur les connaissances actuellement disponibles en linguistique française. Donc là, je me mets un tout petit peu en porte-à-faux, puisque à l'intérieur de cette terminologie, il me semble qu'il y a quelques éléments qui ne sont pas tout à fait fondés sur les connaissances actuelles. J'en fais pour preuve le verbe. Dans cette terminologie, le verbe est à nouveau rentré à travers trois groupes, premier, deuxième et troisième groupe. On n'en est plus là en linguistique et surtout en didactique de la langue. On sait bien que les groupes, à part les verbes en verbe, le reste n'a pas beaucoup d'utilité, mais je ne développe pas plus. Voilà ce qui est mis dans l'adjectif. Il n'y a pas grand-chose qui est mis. Et on nous dit l'adjectif exprime une qualité ou une propriété du nom auquel il se rapporte. Et il s'accorde en genre et nombre. On voit bien que la dimension morphologique est toujours dominante. Bon, voilà, ça ne nous aide pas beaucoup parce que je vous rappelle que la question qu'on doit se poser, c'est les élèves, eux, ils ne soulignent pas un mot, ils soulignent des groupes de mots. Et ça devrait quand même nous interpeller. quand on regarde les règles, on trouve la même chose. C'est-à-dire que là, j'ai pris quelques règles parce qu'on a aussi capté les règles, les leçons. Bon, ben voilà, on parle d'adjectif qualificatif, c'est un mot du groupe nominal, ça donne des précisions sur le nom. Là, j'ai trouvé une autre règle, on nous dit la même chose, que ce soit en CE1, CE2, CM1. En fait, ce qu'il faut entendre, ne cherchez pas à lire, mais ce qu'il faut entendre, c'est qu'en fait, on leur répète tout le temps la même chose. C'était pareil pour le verbe, c'est souvent pareil pour les définitions des classes grammaticales. On a l'impression qu'à ces élèves, on leur répète tout le temps la même chose, une forme de circularité comme ça, mais que quand on les regarde en acte, que ce soit en production directe, mais voire même dans l'exercice qu'on vous a montré, on voit qu'il y a des résistances et qu'on ferait mieux de s'intéresser aux résistances qu'ils nous montrent au lieu de continuer à essayer de plaquer une définition un peu trop scolaire et qui ne semble pas efficace. C'est le but de notre recherche, c'est de se dire, essayons de trouver d'autres angles d'attaque au lieu de continuer à perpétuer une règle, tu l'apprends, tu fais des exercices et tu sais, et tout le monde sait ici, que ce soit dans la salle de Besançon et chez vous ou à Lyon, que ce n'est pas comme ça que ça marche. Le test 3, ce sont des explications d'élèves. Donc là, je vous en donne une, CM2, janvier. L'adjectif, j'en ai plus une qui était bien écrite. L'adjectif est une information supplémentaire sur le nom. Exemple, une robe rose. Comment est la robe? La robe est rose. Déjà, je vous signale qu'en fait, les élèves, quand vous les laissez parler, ce n'est pas la fonction épithète qu'ils mettent en avant, ils utilisent la fonction attribut. Premier indice, peut-être qu'il faudrait arrêter, peut-être que la fonction épithète est plus compliquée que la fonction attribut. Fonction attribut, on construit une phrase qui tient debout. Pierre est grand, pouf, on tient debout. Et pourtant, c'est plus tard. Donc là, on a sûrement un décalage. On a sûrement des choses à faire institutionnellement. Bon, si le nom est féminin, on ajoute un E, donc là, c'est cette petite fille. Donc ça, nous, on est capable de l'analyser. C'est-à-dire qu'on regarde toutes les propriétés, c'est des choses qu'on a faites sur le verbe. Dans la salle où je suis, les collègues connaissent. On a fait à peu près la même chose sur l'adjectif. Et ça nous donne, sur une cohorte d'élèves de CM1, de CM2, ce qui est intéressant, c'est de voir que plus l'année scolaire avance, plus ils utilisent l'entrée sémantique. Donc, ça questionne, parce qu'ils ne vont pas s'en sortir, en fait, à s'accrocher à la précision du nom, ils ne vont pas s'en sortir parce que 7 heures pour des élèves, ils se lèvent à 7 heures, Pierre se lève à 7 heures, à 7 heures, ça donne des précisions et ils confondent un petit peu beaucoup de choses. Donc, ça ne les aide pas. L'entrée morphologique est peu mise en avant, en fait, et l'entrée syntaxique, elle augmente aussi. Donc, on voit quand même sur ce diagramme-là où on voit les entrées monter, on voit que l'école, par son travail, permet aux élèves d'accumuler des connaissances. Après, la question, c'est est-ce que ces connaissances sont claires? Si je reprends ce schéma, c'est le même, et que je regarde pour l'entrée sémantique, qu'est-ce qu'ils nous ont dit précisément? Ils nous ont dit, en gros, au début, ils parlent vraiment du lien avec le nom, ils disent ça donne des informations sur la rose, sur la pierre, sur le vase, et petit à petit, on voit que ça bascule et ils commencent à prendre un tout petit peu de recul, ils disent ça donne des informations sur le nom. Donc, on voit qu'ils prennent un tout petit peu de distance. Mais ça reste assez fort. Et du côté de la syntaxe, qu'est-ce qu'ils font? Ben, assez logiquement, syntaxiquement, ils mettent le lien avec le nom, mais ce n'est pas toujours simple. Parce que quand un élève nous dit l'adjectif qualifie le nom, on a eu des grands débats pour savoir, quand l'élève nous dit ça qualifie le nom à l'écrit, est-ce que c'est une entrée plutôt sémantique ou syntaxique? Et en fait, on a fait des entretiens avec les élèves, et en général, quand ils nous disent ça qualifie le nom, c'est du côté du sémantisme. En fait, c'est du sens. Ils sont très sens, c'est normal. On voit que la position de l'adjectif, c'est quelque chose qui, petit à petit, ils en parlent, mais ils en parlent de moins en moins, parce que c'est problématique. La référence à l'accord, on voit qu'il y a la montée de la morphologie, donc à un moment ou à un autre, ils parlent de plus en plus de l'accord. Et ce qui est assez surprenant, c'est que les élèves, 20% des élèves, 20-25%, un quart des élèves qui parlent de syntaxe, utilisent un opérateur qui est l'adjectif est supprimable. Opérateur qui, si vous m'avez bien entendu écouté, n'a jamais été utilisé dans les programmes et n'est pas utilisé dans la terminologie. En fait, il y a quelque chose, là nouveau, qui est dans l'habitus des enseignants. En fait, les enseignants, pour aider les élèves, disent d'une manière assez régulière, c'est facile, l'adjectif se supprime. Sauf que quand vous réfléchissez, déjà en termes de lien sémantique, supprimer un adjectif, un adulte dit, ça ne change pas le sens de la phrase, un élève résiste. Le ballon rouge, c'est le ballon rouge. En plus, dans une forme épithète, on pourrait dire oui, c'est possible, mais dans une forme attribut, ça ne marche pas. Le ballon est rouge, je ne peux rien supprimer. La question qu'on est en train de se poser, c'est que la recherche est en train de nous montrer que le verbe était un problème, mais l'air de rien, il s'en sort mieux que l'adjectif, et que l'adjectif est aussi un gros problème, et que cet adjectif, en fait, il questionne les savoirs enseignés, on a l'impression qu'il y a un vaste malentendu, c'est comme ça qu'on a nommé les choses. En gros, on dit que l'adjectif, c'est une précision sur le nom, plutôt dans le groupe nominal, plutôt en fonction épithète, et surtout, on court après l'accord. Et les élèves, là, il y a une forme de disjonction, parce que les élèves, en fait, eux, ils conceptualisent l'adjectif de manière très floue. Ils sont plutôt, gardez bien l'idée que c'est plutôt une fonction, en fait, qu'ils évaluent, une fonction qui détermine quelque chose, mais c'est une fonction. Deuxièmement, dès qu'on le déclaratif appuyé sur le lien morphosyntaxique avec le nom, bah, il n'est pas très cohérent, c'est-à-dire qu'ils n'en parlent pas tant que ça. En fait, la conception d'accord, ils le disent parce qu'on leur demande de le dire, mais quand on les questionne, c'est quelque chose qui explose assez vite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut en faire plus? Ça veut dire que pour l'instant, ce n'est pas la problématique. Et qu'en plus, quand on réfléchit un peu sur l'adjectif, il y a plein de situations où je n'ai pas besoin de réfléchir. Petite, c'est au féminin, je n'ai pas besoin de réfléchir. Il y a un moment ou l'autre, on fait surréfléchir des élèves sur des trucs d'accord. À un moment ou l'autre, il faut aller sur les choses et déjà écoute. Et deuxièmement, dernier point, bah, tout ça, ça nous pose un problème de gestion de la chaîne d'accord du GN, bien sûr, parce que tout est lié. Et ce qui nous surprend encore plus, et c'est un peu le boulet qu'on a mis en avant, c'est qu'il y a la suppression qui est mise en avant, qui nous pose trop de problèmes. On pense que ce n'est pas efficace pour identifier. C'est trop inclusif. On pense que c'est adoré par les élèves parce que ça a l'air facile. Mais il faut se méfier de la facilité en pédagogie. Et surtout, on pense que c'est contre-productif. On pense que les élèves, déjà, et c'est là qu'on va basculer du côté de la production d'écrit, on ferait mieux d'apprendre à ajouter des adjectifs, à lister des adjectifs, à manipuler des adjectifs que de les supprimer. Déterminant, on a une vraie question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on l'approche par la variabilité? On dit le déterminant, c'est quelque chose qui est variable et on le fait varier. Ou est-ce qu'on l'approche par l'invariabilité? Dans la tradition scolaire, le déterminant est une classe dite variable. Donc, évidemment, vous allez vite comprendre que ce n'est peut-être pas le bon chemin. La logique scolaire semble dire que c'est le plus simple, sauf que déjà, on a un problème. Le problème avec les monombres, qui sont invariables. Le problème avec les homophones, qui tout de suite entraînent plein de soucis. Et le problème avec les déterminants qui ne varient pas. Le problème aussi, il y a quand même beaucoup de déterminants qui ne varient pas. Et le problème aussi de faire croire aux élèves que bah, c'est facile, le, c'est le masculin de là, qui est le féminin de le, que le, c'est le pluriel de le et là. Ça me semble être un petit peu compliqué, surtout que les, le, là, on sait les écrire et en général, les élèves ne se trompent pas. Donc, première réflexion, et à nouveau, je vous renvoie à nos données, en fait, c'est nos données qui nous intéressent. Dans la dictée de CM1 et dans la dictée de CM2, les élèves devaient écrire 4 gamins. Donc, on a regardé comment ils ont écrit 4. Il n'y a que deux solutions. Soit ils ont compris qu'en fait, c'était invariable et ils l'écrivent sans S. Soit ben, c'est un déterminant variable. S'il y a 4 gamins, il y a plusieurs gamins, je mets un S à 4. Donc, voilà les résultats. Les résultats en rouge montrent quand même que 4 est bien orthographié. En bleu, c'est 4 avec un S. Sauf que si vous observez bien, on a quelque chose qui est une forme de dégradation de la bonne orthographe de 4 et une augmentation. Je pense que les courbes ne vont pas se croiser. J'espère. Mais on a une augmentation du S de 4. Donc, on a un problème. En fait, on a un problème. Et le problème, ben, je pense que c'est du côté de l'invariabilité qu'il faut trouver la solution. C'est-à-dire qu'en fait, les déterminants, il faut les mettre du côté des classes invariables. Et ce qu'il faut faire avec les élèves, c'est un travail de substitution. Tout ce qui se substitue à un, une des, c'est un déterminant. Et en faisant ça, ben, en CE1, par exemple, on construit tranquillement des corpus comme ça. On peut avoir une affiche de CE1 où par manipulation syntaxique, dans la rencontre, on ne fait pas d'exercice, hein, c'est la rencontre du temps, on manipule les langues, on manipule la langue et au fur et à mesure, dans cette classe-là, dès qu'il voit par une dictée, etc., que on a pu le substituer avec un autre mot, bah, la maîtresse a dit, bah, ce mot-là, on va le mettre dans la fiche jaune et on va appeler ça déterminant, on ne va pas tourner autour du pot. On imagine bien qu'en CE1, si ça, je le donne à des collègues de CE2, ben les CE2, ils vont dire, voilà, là, on se retrouve avec un gros truc, il faudrait qu'on le classe, qu'on le trie ou qu'on le classe. Puis après, en CM1, on continue, en CM2, on continue. On fabrique sur une classe grammaticale finie. Il n'y a pas 25 000 mots de déterminants. Il y en a un certain nombre, mais pas tant que ça. On pourrait s'amuser à fabriquer un tableau comme ceci. C'est-à-dire qu'on fait recouper des préoccupations orthographiques avec ça, et on se retrouve donc avec des déterminants singuliers, des déterminants pluriels, c'est peut-être le premier tri qu'on pourra faire en CE2, puis après, il faudra sous-trier, et peut-être qu'on pourra le faire plus tard, on a le temps, en CM1, CM2, masculin, féminin, et en fait, on va se rendre compte que certains déterminants, mais en fait, on n'a pas la marque du masculin ni du féminin, mais on a la marque du singulier, d'autres, on a la marque du pluriel, mais pas, etc., etc. Et ce que j'ai surligné, en fait, c'est les problèmes. Et donc, on se rend compte que des problèmes, bah, c'est quel ? C'est aucun, parce que aucun, singulier, pluriel, on entend pareil. Aucune, singulier, pluriel, on entend pareil. Sept, alors là, c'est plus rigolo, parce qu'il y en a trois, en fait. Il y a SEPT aussi. Donc, on se rend compte qu'il n'y en a pas tant que ça, des problèmes. Et voyez, au lieu de chercher à dire aux élèves, le déterminant, c'est quelque chose qui varie, on ferait mieux de dire aux élèves, c'est invariable, on a le tableau sous les yeux, et très rapidement, comme nous tous ici dans cette salle, on apprend par cœur, et on n'a plus de problème, me semble-t-il. En plus, ça nous permet de faire le lien avec des locutions, c'est-à-dire qu'il y a aussi des locutions qui peuvent servir de déterminant. Ça permet aussi d'appliquer l'orthographe rectifiée de 1990, parce qu'il ne faut pas se poser un petit peu à un moment ou à un autre, il ne faut pas se créer des problèmes. L'orthographe rectifiée de 1990 est d'une clarté absolue. Quand j'écris des mots-nombres et que j'utilise différents mots, je les mets ensemble et ça me permet d'avoir des tirets pour coller. Alors évidemment, vous me direz, mais que dit la terminologie ? Alors la terminologie, elle dit, elle, qu'il faut rentrer par article défini, indéfini et des impositifs démonstratifs. Vous avez bien compris que cette entrée-là, qui est une entrée sémantique, elle n'est pas inintéressante. Et il me semble que puisqu'on est en train de courir après la morphologie, bah, ce travail-là est à faire en situation d'écriture et de lecture. Exemple que j'ai déjà donné il y a deux semaines au Niçois. Toutes les nuits, le chien du voisin aboie. Alors, vous imaginez bien que le matin, vous allez voir le voisin. Toutes les nuits, mon chien aboie. Là, c'est les voisins qui viennent me voir. Toutes les nuits, un chien aboie. Là, c'est tous les voisins qui se mettent ensemble avec des bâtons pour chercher, etc., etc. Et on voit bien que c'est là que ça devient intéressant. Alors que si vous me faites une classification hors sol entre articles, déterminants possessifs, déterminants démonstratifs, là, ça n'a pas de sens. Donc, en fait, c'est toute la subtilité. D'un côté, il y a en orthographe pas grand-chose à faire, simplement à se dire c'est invariable, on va apprendre par cœur. Et du côté des conseils que propose la grammaire, bah, c'est plutôt du côté de l'écriture que ça devient intéressant. Je n'ai pas dit que ce n'était pas intéressant, j'ai dit que c'était intéressant en contexte d'écriture et de lecture. Lors de la conférence de consensus de 2018 sur écrire et rédiger, j'étais intervenu sur la grammaire et le lien avec la production d'écrit, et j'avais avancé quelques éléments de réflexion pour conclure. Bah, je ne les change pas parce qu'ils sont toujours d'actualité. La première, c'est que la grammaire au sens étude de la langue, moi je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça permet de favoriser la réflexion des élèves, que ce soit sur la phrase, sur le texte, en contexte d'écriture, mais aussi pour réfléchir sur. Mais ça, ça marche que si on s'appuie sur des descriptions qui ont du sens, qui sont régulières et qui répondent aux préoccupations des élèves. Deuxièmement, il faut articuler une pratique raisonnée de la langue en contexte d'écriture et des activités hors contexte. Je pense que les deux ont leur place. Trop souvent, en fait, c'est du hors contexte qu'on voit en classe. Trop souvent, c'est du chronophage hors contexte qu'on voit en classe. Et trop souvent, c'est du chronophage hors contexte et surtout irrégulier qu'on voit en classe. Donc, une forme d'éclatement et qui ne permet pas aux élèves de comprendre la langue. Le hors contexte permet de comprendre la langue si on le met dans un système. Troisièmement, et ça, c'est un vrai souci, j'avais beaucoup insisté là-dessus et je continue à insister là-dessus, il faudrait un consensus. Mais un consensus, ce n'est pas quelque chose qui est décidé par une personne. Un consensus, c'est décidé par plusieurs personnes, que ce soit des utilisateurs, des enseignants, des chercheurs, etc., de différents champs, évidemment, de recherche. Il faut un consensus sur les notions noyaux efficientes pour écrire. À un moment ou à un autre, quand on a dit que le passé simple, c'était les troisièmes personnes du singulier au pluriel dans les programmes de 2015, c'est parce qu'un élève de CM1, de CM2 et de 6e a besoin des troisièmes personnes du singulier au pluriel du passé simple pour écrire. C'est tout. Et ce n'est pas grave, les tuputes, vous pute, je veux dire, on verra ça plus tard, même si ça plaît beaucoup aux élèves. Et derrière ces notions noyaux, il faut stabiliser les savoirs et la terminologie. Et la terminologie, c'est de se dire, à un moment ou à un autre, on va appeler un terme par une notion par un terme, et tant pis s'il y a d'autres termes qui étaient utilisés, il faut accepter dans une forme de rénovation de ne pas utiliser quatre termes pour désigner, ben, je sais pas, moi, complément de verbe, complément essentiel, complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Ben, ça veut dire à peu près la même chose. Donc, il faudrait faire un choix. Et avoir peut-être une relation dynamique entre les connaissances. Ça, c'est facile à dire, ça, hein, cette relation dynamique. En fait, il faudrait que l'enseignant soit tout le temps en train de rebondir, même en production d'écrit, peut-être pas tout de suite, mais de se dire, ah là, ce qu'a fait l'élève, c'est intéressant, on pourrait le réutiliser à un moment ou à un autre dans une activité décrochée. Il faudrait en permanence que les enseignants, en fait, rebondissent sur des liens entre la langue et le langage. Mais ça, c'est difficile, ça demande vraiment beaucoup de... Et c'était tellement difficile que le levier que j'avais mis en avant, c'était celui-là, c'était la question de la formation des enseignants, la formation initiale, continue, parce que c'est là que ça se joue, en fait.